7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons éducation comme chaque semaine et aujourd'hui cette question. Où sont les filles dans les filières scientifiques? Bonnes élèves dans le secondaire, celles qui partent vers des bacs scientifiques, se dirigent certes parfois vers la médecine, la biologie, les métiers du soin, plus rarement vers des études d'ingénieur, alors que ce sont les carrières les mieux rémunérées, qu'il y a pénurie sur le marché de l'emploi dans de nombreux métiers. Quels sont les freins dans l'enseignement supérieur qui découragent les filles? Quel levier actionner pour féminiser les carrières scientifiques? Nous allons en discuter avec nos invités et bien sûr les voisines. Si vous avez choisi une voie technologique, scientifique, appelez-nous sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Je vous présente nos invités. Manon Reguet-Petit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous avez publié une étude sur les freins à l'accès des filles aux filières informatiques et numériques pour le centre Hubertine Auclair, un centre pour l'égalité femmes-hommes. Également avec nous, Myriam Momi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mathématicienne à l'Université de Technologie de Troyes, membre du bureau de l'association Femmes et Mathématiques. Vous nous direz ce que vous faites sur le terrain, comment vous parlez avec les filles en cours d'orientation. Et en fin d'émission, la chronique, comme chaque semaine, du psychologue Ibrahima Giroud à Dakar. Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, il nous dira aujourd'hui comment écouter les enfants lorsqu'ils se plaignent de la violence dans la famille. Allez, je vous rappelle notre numéro de téléphone pour les filles dans les filières scientifiques, 33 7 64 45 51 41.
RFI à Cara, 98.3 FM.
Bonjour 7 milliards de voisins, je suis Ayawavi, togolaise, ingénieure génie civil travaillant au nord de mon pays, précisément Cara, comme chef projet. Ma carrière d'ingénieur a commencé d'abord par la formation au lycée technique où j'ai fait la série F4, ensuite un BTS et dans ces deux niveaux déjà j'ai toujours été la seule fille du groupe. Et c'est pas commun de voir des filles dans ce domaine, donc tu n'es pas forcément encouragée à continuer ou on ne te prête pas vraiment oreille quand tu poses des questions. Il faut faire doublement d'efforts pour être entendue. Et dans la profession également, on dit, mais toi, tu es une fille, qu'est-ce que tu peux bien nous apprendre? Ça n'a pas été facile, mais à ce jour, je me sens bien dans ma profession et j'encourage beaucoup de jeunes filles à embrasser la carrière d'ingénieur qui est un métier d'avenir.
Bonjour les voisins, bonjour les voisines, c'est la voisine Arlette de Pointe-Noire. Quand j'étais à l'école primaire, au collège, au lycée, les filles étaient vraiment les meilleures. Les filles avaient toujours les meilleurs résultats en maths. Je me souviens qu'au lycée, les filles étaient les plus nombreuses. La salle était remplie de beaucoup plus de filles que des garçons dans des séries scientifiques. Jusqu'à l'obtention du baccalauréat, c'est surtout ces filles qui avaient ces belles mentions. Et ensuite, la tendance s'est renversée à l'université. Je me souviens, dans la salle, nous étions 7 filles pour plus de 30 garçons. Et jusqu'à l'obtention du doctorat, nous ne sommes restées que 4 filles de ma promotion. Mais ces 4 filles avaient les meilleures notes. Bon, je me dis que c'est une mauvaise orientation, tout juste des filles, vers les séries littéraires. Et ensuite, c'est la méconnaissance des métiers scientifiques. Sinon qu'il n'y a pas d'explication. Le cerveau des filles, des garçons, il n'y a pas de différence.
J'ai passé mon secondaire dans un établissement mixte dans lequel les filles représentaient nettement les 60% de notre effectif général pour la classe de 3e A. Mais parmi les élèves orientés en seconde S, les filles représentaient 25% du nombre, ensuite 15% en première S, pour finir en dessous de 10% en terminale S. Le pire constat est que les filles représentaient les 80% des cas d'échec en bac S pour notre promotion. Ce constat continuait de se faire dans sa forme extrême quand je suis entré à la faculté des sciences au département des mathématiques. S'agissant d'un phénomène presque mondial, cela me donne l'impression que les filles doivent passer dans un entonnoir pour réussir dans les domaines scientifiques.
Voilà, ça c'est Nelson à Bangui, en République centrafricaine. Vous avez entendu tous ces témoignages. Et nous sommes également en ligne en direct avec Sylvia, élève de 13 ans, classe de 4e à Brazzaville, au Congo. Bonjour Sylvia.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être en direct avec nous. Je crois que c'est ta sœur qui nous a dit de te contacter parce que tu aimes les sciences. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu sais un peu comment tu vas t'orienter?
Pour l'instant, je ne sais pas exactement, mais plus tard, je veux bien faire architecture.
Ouais. Et pourquoi architecture?
Parce que j'ai pu observer mon grand frère à la maison qui a fait ça aussi. Et je l'ai souvent vu dessiner ses plans. Ouais. Et j'ai vu que ça m'intéressait. Je voulais faire la même chose. Ouais.
Et à la maison, qu'est-ce qu'on te dit concernant ces métiers?
Qu'il va falloir que je m'applique beaucoup, que je travaille beaucoup. Et surtout en mathématiques.
Mmh. Est-ce que tu aimes les maths, Sylvia?
Oui, j'aime bien les maths, oui.
T'as des bonnes notes?
Oui, j'ai des bonnes notes en maths.
Et dans ta classe, qui a les meilleures notes en maths?
Dans ma classe, les meilleures notes en maths, ce sont les filles. Et il y a quelques garçons aussi, mais les filles passent en premier.
Oui. Et comment tu expliques qu'ensuite les filles ne choisissent pas des métiers scientifiques? Tu nous as parlé du métier d'architecte, mais ça pourrait être aussi un métier d'ingénieur. Hein, pour construire des immeubles dans le bâtiment, il faut des architectes et des ingénieurs.
Oui, c'est vrai, oui.
Est-ce que tu as beaucoup d'amis qui voudraient choisir des professions de ce type, Sylvia?
Non, je n'ai pas beaucoup d'amis qui veulent faire ça.
Et pourquoi?
Peut-être qu'elles préfèrent s'orienter ailleurs, dans des métiers qui seront peut-être plus simples, un peu plus simples,
ouais,
pour elles.
Ouais. On a une mathématicienne là dans le studio, Myriam Momi. Est-ce que vous voulez faire passer un message à Sylvia, qui est en classe de 4e?
Oui, alors Sylvia, j'aime bien quand tu dis les filles ont de bonnes notes. Je pense que ça, c'est l'information qu'il faut retenir. Effectivement, les filles qui ont de nature, elles travaillent, elles s'appliquent. En maths, c'est des atouts qu'il faut que tu gardes. Et surtout, moi, je t'envoie tout mon courage. Mm-hmm. Tu vas prendre le courage que j'ai, je te l'envoie. Parce que ça, c'est mon... D'accord? Donc, vas-y.
Merci. Hein.
Et, non, mais... Et puis même, va plus loin que ce que tu as envie d'aller, en fait. Et puis ose, parce que ça c'est aussi ce qu'il faut que vous entendiez toutes, c'est oser, allez-y, hein, d'accord? Et ne pas
bien
se laisser...
Sûr. Merci beaucoup.
Ah mais de rien.
Très bonne journée à toi Sylvia, tu nous tiendras au courant. Hein,
bien sûr.
À bientôt, bonne chance pour la fin de l'année, en classe de 4e à Brazzaville. Vous pouvez continuer de nous téléphoner. Où sont les filles dans les filières scientifiques? 33 7 64 45 51 41. Vous avez entendu les témoignages. Est-ce que vous reconnaissez finalement un certain état des lieux qu'on retrouve en France, Manon Reguet-Petit, par rapport à ce qui a été dit dans les témoignages des auditeurs, des auditrices surtout, qui sont sur le continent africain?
Alors oui, bien sûr, il y a plusieurs éléments qu'on retrouve de façon tout à fait similaire en France. D'abord, c'est le sentiment d'être seul, en fait, dans ces filières scientifiques, numériques, etc. Le sentiment, du coup, d'être seul et d'être un peu exclu. Et c'est pas anodin, parce que c'est être exclu des réseaux de sociabilité, mais aussi des réseaux d'entraide, parfois entre élèves. Le deuxième point, c'est celui de ne pas être entendu, de devoir parler un petit peu deux fois plus fort pour être entendu. Et là, ça touche potentiellement aux stéréotypes qui peuvent être portés également par le corps enseignant et qui peut accorder une moindre importance à la parole des filles, ou du moins considérer que les filles et jeunes femmes qui sont dans ces filières-là, elles sont là un petit peu par défaut, par erreur. Alors même que ce qu'on voit, nous, dans notre étude, mais ce qui a été montré dans d'autres travaux, c'est que les femmes qui sont dans ces filières-là, elles ont les mêmes motivations que les garçons qui sont là, que les hommes qui sont là, et elles ont, au contraire, en fait, souvent levé plus d'obstacles que les garçons pour se retrouver là. Donc là, c'est des choses qu'on retrouve. Et l'autre point qu'on retrouve, le constat qui était présent dans vos témoignages, c'est celui d'une déperdition des filles, alors même qu'elles ont d'excellentes notes, une déperdition progressive et continue des filles tout au long des études, si bien que en fin de parcours, il y a presque plus de filles qui sont présentes. Et ça, on le retrouve en France, mais dès le lycée, où entre la seconde et la première, on perd des filles dans ces disciplines-là, puis entre la première et la terminale, et encore plus dans le supérieur.
Ouais, ouais. Et Sylvia nous l'a confirmé, hein, les meilleurs élèves en maths dans sa classe en quatrième, déjà, c'est déjà les filles. Et pourtant, en France, on a 30% de filles seulement en classe préparatoire scientifique, c'est-à-dire pour passer les concours, pour entrer dans les grandes écoles d'ingénieurs. 82% des étudiants en spécialité numérique et sciences de l'information sont des garçons. Donc, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de filles, hein, pratiquement. 35% des étudiants en sciences, technologies, ingénierie, mathématiques sont des filles. Un quart des diplômés en ingénierie sont des femmes. Les filles représentent en moyenne 15 à 25% des effectifs en école d'ingénieurs. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que les filles sont, malgré tout, on ne peut pas dire que les filles ne choisissent pas les sciences. Les filles sont majoritaires, par exemple, dans les filières en médecine. Myriam Momi.
Tout à fait. Je pense que le fait qu'elles ne choisissent pas forcément l'ingénierie, c'est en fait une identification avec le métier. C'est-à-dire que, en fait, lorsqu'on dit mathématiques, physique, eh bien, on ne voit peut-être pas tout de suite le métier. Alors que si vous dites biologie, ah ben ça y est, c'est la médecine, c'est médecin, je vais soigner.
Travailler dans un laboratoire d'analyse.
Exactement. Et je pense que le fait qu'on n'arrive pas à relier tout de suite à un métier, aux mathématiques ou à la physique, ça met déjà un frein. C'est-à-dire que souvent, vous entendez, moi je me souviens quand j'étais petite, je disais je veux faire des maths, mais qu'est-ce que tu vas faire avec des maths à part faire prof ? Voilà. Et c'était tout de suite, ça y est, on cataloguait. Hein, et ça, je pense que c'est aussi quelque chose, il va falloir le casser mais avec une hache.
Aujourd'hui, quand même, les jeunes sont surinformés. Comment expliquer que ces chiffres-là, ils sont globalement stables ? Qu'est-ce qui se passe depuis 20 ans, dans le fond, Manon Reguet-Petit ?
Ce qu'on remarque, c'est que les jeunes de la génération qui est là, présente en ce moment au collège, au lycée, ils adhèrent mais massivement au discours d'égalité entre les filles et les garçons. Massivement à l'idée que, qu'on soit une fille ou un garçon, on peut faire ce qu'on veut dans la vie. Mais paradoxalement, quand on leur demande ce qu'eux souhaitent faire, elles et eux, là, finalement, c'est une toute petite minorité qui va faire des choix dits atypiques. Et encore, par rapport à leur identité de fille ou de garçon. Et ces choix atypiques-là, uniquement des filles. On retrouve très peu de garçons, nous, dans notre étude, qui, on n'en trouve pas d'ailleurs, qui iraient vers des filières dites féminines. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que outre le côté de l'éducation, de la socialisation, ce qui se passe dans la famille, ce qui peut se passer dans la société, dans les groupes d'amis, nous, ce qu'on voit, c'est qu'ensuite l'école, et en l'occurrence le lycée, est un lieu où on entérine, où on accentue encore ces inégalités entre les filles et les garçons, parce que l'institution telle qu'elle est faite, les cours d'orientation, l'accompagnement par les enseignantes et les enseignants, eh bien, il tend à exclure les filles des filières scientifiques et numériques, informatiques.
Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années avec la réforme du lycée, où on a vu baisser le nombre de filles choisissant les filières scientifiques au lycée, puisqu'on a... On n'a plus la fameuse section S aujourd'hui.
Là, il y a un effet un peu délétère de cette réforme. Alors nous, on a étudié la première cohorte, la première génération de lycéennes et de lycéens qui ont fait ces choix-là. Très rapidement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la seconde, les élèves doivent choisir trois enseignements dits de spécialité. Et donc là, ça suppose de se considérer comme spécialiste aussi de certaines disciplines. Donc là, on voit que, alors même qu'avant, la filière S était considérée comme une filière d'excellence un peu généraliste, eh bien maintenant, on choisit des disciplines. Donc on en choisit trois, et donc il y a un phénomène d'exclusion beaucoup plus fort des filles. Peut-être pas des maths, même si c'est déjà le cas, mais de la physique-chimie, par exemple, de façon très forte, et du numérique, les sciences de l'informatique ou des sciences de l'ingénieur, de façon extrêmement marquée, entre la seconde et la première. Ensuite, entre la première et la terminale, les élèves doivent abandonner un de ces trois enseignements de spécialité. Et là, on voit vraiment que massivement, les filles vont abandonner bien plus que les garçons les maths, bien plus que les garçons la physique-chimie, bien plus que les garçons les sciences de l'ingénieur et la NSI.
Mais qu'est-ce qui se passe alors qu'elles ont des très bonnes notes dans le secondaire ? Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là où tout d'un coup il y a la spécialité qui arrive ? Pourquoi les filles se découragent plus ?
Alors il y a plusieurs phénomènes qui peuvent l'expliquer.
Elles ont des moins bonnes notes ?
Alors c'est pas qu'une question de notes, non, mais c'est parfois à niveau de notes équivalent, on va considérer que les filles sont ont leur potentiel atteint, alors qu'on va attribuer aux garçons l'idée qu'ils y arrivent sans trop travailler. Que ça serait un petit peu naturel pour les garçons, alors que les filles sont à fond de leur potentiel. Donc, on va leur dire attention, peut-être que ça va être dur pour toi l'année prochaine parce que le niveau va encore
vous
augmenter.
Vous avez entendu, Sylvia nous a dit en direct, elle a 13 ans, dans ma famille, on me dit si tu veux être architecte, il va falloir beaucoup t'appliquer en maths et pas beaucoup aimer les maths. Tout à fait. C'est pas la même chose.
Tout à fait. Et ce qui est effectivement, je rebondis sur cette remarque, tu sais, là tu travailles déjà et tu vas encore travailler plus derrière. Alors moi j'ai tendance à dire, mais la femme travaille de toute façon énormément, c'est comme ça, elle travaille parce qu'un jour elle va avoir un bébé et il faudra qu'elle travaille aussi. Donc voilà, non, je pense qu'il faut casser encore un préjugé de croire que les femmes ou les filles ont atteint leur capacité au lycée, elles peuvent très bien en avoir après. Et je pense qu'elles se mettent, de toute façon, elles se mettent toujours à fond dans quelque chose. C'est-à-dire que moi, je me souviens, j'étais à fond en seconde dans les maths, j'étais à fond jusqu'en terminale et j'ai jamais... Voilà, je ne sais pas faire le barycentre, faire le milieu, ça, je ne sais pas faire. Je pense que ça fait aussi partie de la personnalité féminine.
Mais le fait que les filles soient minoritaires après dans ces spécialités, est-ce que ça renforce encore les freins et le découragement ?
Oui, alors ça le renforce à plusieurs niveaux. D'une part, parce que ça exclut. Ce qu'on voit dans les salles de classe, c'est que filles et garçons se mélangent peu. Et que, ensuite, en termes de sentiment de légitimité, à prendre la parole, comment est-ce que je prends la parole ? Et donc, est-ce que je suis compétente ? Est-ce que j'ai le droit de me tromper ? Si je me trompe une fois, est-ce que ça veut dire que je suis mauvaise ? Et là, on remarque que chez les garçons, il n'y a aucun problème avec le droit à l'erreur, en fait, oui, avec la prise de parole spontanée.
On va dire qu'il a été inattentif,
oui,
ou il s'en fiche.
Voilà, où il apprend en testant, là où une fille, quand elle fait une erreur, en fait, ça va sanctionner le fait que, ah, peut-être qu'elle a fait un mauvais choix d'orientation, peut-être qu'elle ne devrait pas être là. D'ailleurs, la preuve, elles sont déjà moins nombreuses. Et pour une fille, le fait d'être, du coup, ça peut être perçu comme la preuve qu'elle n'est pas censée être là.
33% des filles se trouvent encouragées par leurs parents à s'orienter vers les métiers du numérique, hein, qui sont quand même des métiers d'avenir, où il y a des très belles carrières. 61% des garçons se trouvent encouragés par leurs parents. C'est du simple au double, pratiquement.
Ah oui, bah c'est parce que typiquement, on est sur un domaine qui fait appel à des stéréotypes en fait, de genre très forts. On associe l'image du geek, une image masculine, une image aussi de l'idée que ce serait un métier qui serait extrêmement solitaire, etc. Et très technique. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on n'associe pas ces goûts-là aux filles, alors même que nous, ce qu'on voit, c'est que les filles qui font le choix du numérique, en fait, c'est des filles qui sont attirées par le côté technique, par le côté aussi interactif qu'il peut y avoir lié au numérique, mais qui ont les mêmes appétences que les garçons qui vont dans ces domaines-là. Et parfois, ce qu'on remarque, c'est qu'on va trop naturaliser, essentialiser les goûts des filles et considérer qu'elles ont forcément des goûts différents des garçons. Alors même que, en fait, qu'on soit une fille ou un garçon, on peut évidemment avoir une envie de technicité ou d'abstraction, de technologie, etc.
38% des adolescentes estiment que le numérique est trop technique pour elles, donc 27% seulement pour les garçons. 28% estiment qu'il faut un niveau de maths très élevé, alors que seulement 20% des garçons. Ça veut dire que les filles ont davantage peur.
Oui, et parce qu'aussi on leur dit davantage, attention, es-tu sûr que tu veux aller, tu sais que pour faire du numérique, il faut être très bonne en maths, etc. Au même titre qu'on va dire aux filles qui disent, moi j'ai envie d'être astronaute, donc il faut que je fasse une prépa scientifique, attention, es-tu sûr que tu vas supporter la pression d'une classe préparatoire ? Chose qu'on ne dira pas du tout aux garçons, parce qu'on va considérer qu'ils ont un potentiel dans ce domaine-là, qui serait naturel, comme s'il y avait un cerveau des garçons qui serait spécifique, un cerveau des filles qui serait différent. Et bien sûr, c'est quelque chose qui n'est absolument pas prouvé scientifiquement, et il n'y a pas de différence dans le cerveau des deux côtés. Donc en fait, après, les filles intériorisent cette dimension-là, mais ce qui est intéressant, c'est que même celles qui les dépassent, à tous les niveaux, au lycée, on va leur rappeler de façon insidieuse, soit par le corps professoral, mais aussi parfois dans les groupes, dans les groupes d'élèves, où on va entendre, ah bah c'est normal, t'es une fille, des moqueries du sexisme, en fait, hein, le sexisme ambiant, qui n'est pas anodin et qui joue, au-delà des violences que ça peut produire, dont on parle beaucoup en ce moment, qui joue aussi sur le sentiment de légitimité, tout simplement, à avoir de l'ambition, à se dire compétent dans des domaines qui sont étiquetés comme masculins et qui sont du coup qui jouent un rôle d'exclusion extrêmement fort des filières considérées comme masculines.
Oui, on a entendu le témoignage d'Hawaii à Cara, hein, qui a dit « Moi, je me sens très bien dans mon métier d'ingénieur. » Et pourtant, elle est au Togo. Quand les filles choisissent les maths, Myriam Momi, est-ce que même là, une fois qu'elles ont choisi les maths, il y a des choix en maths plus féminins que d'autres à l'intérieur même de la discipline?
Oui, donc effectivement, il y a deux axes en mathématiques. Il y a les mathématiques théoriques et puis il y a les mathématiques appliquées. Alors effectivement, là, les filles parfois vont aller vers les mathématiques appliquées parce qu'effectivement, on va leur dire tu pourras peut-être t'orienter vers le médical ou l'économie ou voilà, encore peut-être des connotations.
Par exemple, les statistiques, c'est les mathématiques appliquées?
Exactement, oui.
Pour faire des stats, par exemple, pour les grandes compagnies d'assurance, l'actuariat, par exemple.
Tout à fait, les banques.
La prédictibilité, tout ça.
La prédiction, tout à fait.
Pardon, la prédiction.
Oui, oui. Non, tout à fait. Il y a aussi que une fois qu'elles font des mathématiques, sincèrement, elles ont énormément de capacité, de créativité, et parfois elles sont même des leaders. Moi, je vais le dire, hein. J'ai plus de filles en thèse que de garçons en thèse. Parce que,
En thèse de maths ?
En thèse de maths, tout à fait. Hein, en thèse de mathématiques appliquées. Parce qu'elles ont envie d'aller jusqu'au bout. Parce qu'elles savent travailler, elles savent s'organiser. Souvent, et ça, c'est vraiment important. Moi, j'ai noté que parfois, il faut que j'accompagne le garçon hein, en lui disant « faut que tu t'organises comme ça », alors que la fille, spontanément, va le faire. Et elle le fait depuis très jeune, en fait, cette organisation. Quand on parle qu'en quatrième, elles ont de bonnes notes, c'est parce qu'elles savent tout de suite s'organiser au collège qu'elles arrivent à être très douées, qu'un garçon le fera moins de façon naturelle.
Alors, on parle de la France depuis plusieurs minutes. Comment se situe la France par rapport à d'autres pays européens ou par rapport aux États-Unis ? Est-ce qu'il y a le même problème ? On a entendu nos auditrices sur le continent africain. On a vu qu'il y avait quand même un sentiment partagé. Mais dans la réalité des chiffres, Myriam Momi ?
Il y a le phénomène un peu partout en Europe, aux États-Unis aussi. Donc, on retrouve ce phénomène. Je pense que il va falloir casser, comme je disais, à la hache certains préjugés.
Pourquoi ? Parce que les entreprises ont besoin des femmes ?
Les entreprises ont besoin des femmes, mais je pense qu'on a besoin des deux cerveaux. Hein. Même s'il n'y a pas de différence, comme on le dit, mais je pense que les caractères ne sont pas les mêmes, le vécu, le ressenti ne sont pas les mêmes et que la complémentarité est très importante.
Vous restez avec nous, 7 milliards de voisins. Où sont les filles dans les filières scientifiques ? C'est à vous de nous répondre. Vous pouvez nous téléphoner au 33 7 64 45 51-41, on va voir en deuxième partie d'émission comment encourager à choisir des études d'ingénieur, à travailler par exemple dans les systèmes d'information. On en parle juste après IBI, jumelles en Yoruba, bien qu'elles soient d'origine cubaine. Extrait de leur dernier album, Sister to Sister. Our love is underwater. I've cried all over you. Slow down. Grown, let's start new. Our love lost in the forest, burning inside of you. Slow down, now we've grown. Let's start new.
Washing of souls in the river. Washing
7 milliards de voisins, nous sommes en direct sur RFI. On parle éducation comme chaque semaine. Et aujourd'hui, cette question, où sont les filles dans les filières scientifiques? Elles ne sont pas nombreuses, ça c'est sûr. Quels que soient les pays, vous êtes nombreux à nous téléphoner, y compris du continent africain. Nous en discutons avec Manon Reguet-Petit et Myriam Momi sur le cas de la France. On donne la parole au 33 7 64 45 51 41. Khadija nous appelle de N'Djamena au Tchad. Bonjour Khadija.
Bonjour Emmanuel.
Merci de nous appeler. Vous êtes en direct, vous avez 24 ans, vous êtes toujours étudiante, vous êtes en licence, c'est ça?
Oui, je viens de finir avec ma licence.
Une licence en quoi? On a un petit problème de ligne téléphonique.
En énergie, j'ai dit.
En énergie, d'accord. Ça fait partie de quelle faculté, ça?
Bon, c'est un institut national du Tchad. C'est Abbé qui est basé, donc voilà, c'est une école d'ingénierie en général. On finit tout la mécanique, l'électricité et tout ça. Donc moi, j'ai fait la génie énergétique.
D'accord, génie énergétique, ça veut dire que vous allez devenir technicienne, ingénieure?
Voilà, là, je suis ingénieure des travaux.
Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous constatez alors autour de vous, Khadija?
Voilà, d'abord... Dans mon cycle de licence, je suis d'abord la seule fille parmi les garçons.
Donc, sur combien d'étudiants? Sur combien d'étudiants, Khadija?
Oui, sur une cinquantaine d'étudiants. Donc, je suis parmi eux. Et là, dans notre société, il y a vraiment d'impact sur le choix des filles dans ces filières parce qu'il y a toujours des jugés. Il y a des fois où on dit que voilà, tu es une fille. Donc, l'ingénieur, c'est pour les filles parce qu'il y a des travaux un peu plus physiques à faire. Une fille, il faut que travaux à s'asseoir peut-être et à travailler, peut-être reposer tranquillement. Alors que l'ingénierie, c'est de transporter des poids lourds, des choses. Bon, il y a beaucoup de préjugés. Mais après tout, l'ingénierie ne se... Donc, pour le moment, j'ai fini en ingénierie. Et là, je suis en train de suivre un stage. Et dans mon lieu de stage aussi, que ça va. J'apprends bien avec les autres. Et voilà, c'est bien. Le terrain est encore vide dans notre pays. Il n'y a pas beaucoup de filles. Et quand tu as une fille et que tu finis dans cette filière, ça te permet, ça t'ouvre un peu la porte facilement par rapport à certains...
Ah ben, oui, ça j'imagine, parce qu'une fille sur 50 étudiants, on se dit que vous avez dépassé beaucoup de freins, beaucoup de difficultés, Khadija. Aujourd'hui, vous êtes en stage dans une entreprise?
Oui, dans une usine de production.
Une
usine de production d'eau.
D'accord, dans une usine de production d'eau. Est-ce que en stage dans l'usine de production d'eau, finalement, c'est moins difficile pour vous que quand vous étiez étudiante ou il y a les mêmes préjugés?
Non, là, c'est déjà moins difficile. Je me suis vite intégrée et au lieu de tes professionnels, là-bas, il n'y a pas de préjugés. Tu fais ton travail et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de
travail. D'accord. Très intéressant votre témoignage. Merci beaucoup, Khadija, de nous avoir appelé. Myriam Momi, vous qui travaillez aussi sur le lien avec les entreprises et les filières scientifiques, est-ce qu'on peut dire que, paradoxalement, une fois que les filles ont bravé les préjugés au moment des études, au moment des choix, au moment de l'orientation, une fois dans l'entreprise, il y a des besoins économiques, il y a des objectifs à remplir et c'est parfois un peu moins difficile, finalement, ou pas?
Tout à fait. Une fois qu'elles ont franchi la barrière de la classe, c'est-à-dire être deux filles avec 100 garçons, une fois qu'elles sont en stage, ça y est, c'est l'épanouissement total. Et d'ailleurs, souvent, les stages réalisés par les filles sont bien meilleurs que par les garçons. J'entends souvent, comme retour des entreprises, grande initiative, grande indépendance, merveilleuse organisation. Bref, comme je leur dis souvent, l'élève parfaite, ils me disent « tout à fait ». Donc effectivement, en entreprise, ça y est, ça a disparu.
Bravo en tout cas à vous, Khadija. Merci de nous avoir appelés. On donne la parole à Rufina qui nous appelle de Dakar au 33 7 64 45 51 41. Bonjour Rufina.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes chercheuse en sciences de l'éducation et vous êtes aussi la cofondatrice de l'Association des femmes pour la promotion des sciences et de la technologie au Sénégal. Vous êtes dans un pays où il y a une vraie volonté de pousser les filles dans les sciences, même si évidemment les résultats ne sont pas encore complètement là. Qu'est-ce que vous constatez, vous, Rufina?
Nous constatons, merci pour l'invitation.
Et je salue les rescapés qui sont dans votre studio, entre guillemets. Alors, les résultats s'améliorent. À force d'informations, de sensibilisation, communication, réseautage, nous gardons l'espoir. Mmh. Nous sommes vraiment, nous savons que ça s'améliore.
Il y a eu aussi des concours très médiatisés comme Miss Mathématiques.
Miss Sciences, oui, c'est de belles
donc, par définition, réservées aux filles.
Ah oui, comme le concept l'indique. Nous en sommes très fiers parce que c'est une initiative d'une amie et qui a été prise en compte par le ministère maintenant. C'est dans nos annales, nous les combattantes pour l'équité dans les STEM ou les STEM. C'est vraiment le cas de le dire. Au lieu de montrer des têtes bien pleines, nous avons besoin de montrer des têtes bien faites, pardon. Nous avons besoin de montrer les têtes bien pleines.
Merci à vous, Rufina, d'avoir été en ligne avec nous. Aliou également nous envoie ce message du Sénégal. Inspecteur de mathématiques à Fatick. Il nous dit qu'il a travaillé plus de 10 ans comme prof de maths. Le Sénégal commence à renverser la situation. On constate que dans nos classes scientifiques, le nombre de filles a commencé à augmenter. On a instauré la parité dans les classes en questionnant alternativement une fille et un garçon, une méthode pédagogique toute simple hein, finalement. Et le Sénégal, nous dit Aliou, a aussi mis en place ce fameux concours Miss Mathématiques. Manon Reguet-Petit, quelles sont les recommandations principales du rapport qui est d'ailleurs en ligne, que vous publiez grâce à la demande du Centre Hubertine Auclair qui s'appelle Les freins à l'accès des filles aux filières informatiques et numériques?
Alors, sans pouvoir revenir dans le détail là de toutes les préconisations qu'on formule. L'important d'abord, c'est, et ce qu'on voit dans le cas du Sénégal d'ailleurs, c'est qu'en fait, il faut une ambition politique forte. C'est qu'on ne peut pas les piocher. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut surtout pas les piocher une petite préconisation par-ci, par-là, pour faire comme si on faisait des choses. La problématique, elle est structurelle. Les inégalités filles-garçons, elles sont structurelles. Donc, il faut à un moment donné une ambition politique forte pour dire, bah, c'est la priorité. On souhaite vraiment lutter contre les inégalités entre les filles et les garçons et favoriser l'accès des filles à ces filières-là. Et ce qu'on remarque dans les dernières années, c'est que ce discours-là, il est un petit peu absent. On entend des choses, mais en fait, en termes de mesures, il ne s'est pas passé grand-chose. Ensuite, on casse un petit peu cette idée préconçue qu'il faudrait agir sur les lycéennes ou sur les jeunes filles. Souvent dit, ah, faut leur dire qu'elles doivent oser. Faut leur dire que c'est à elles un peu de se bouger. Bougez-vous les filles un petit peu. Alors certes, on peut dire ça. Mais en fait, il y a un moment donné, ça ne suffit pas. Parce que ça, on le dit depuis des années. Et puis que les filles, elles se bougent et elles osent plutôt. En revanche, nous, ce qu'on dit dans ce rapport-là, c'est qu'il faut absolument agir sur la formation des enseignantes et des enseignants qui sont porteurs de stéréotypes, alors sans les uniformiser, hein, mais qui peuvent être porteurs de stéréotypes, parfois qui peuvent être même réfractaires à l'arrivée des filles massivement dans les filières scientifiques, ou qui peuvent être plutôt favorables, mais être démunies, pas savoir comment agir, pas savoir comment faire pour qu'en salle de classe, les filles se sentent légitimes à parler, pour que les filles se sentent légitimes à aller vers ces filières-là, comment faire, moi, en tant qu'enseignante ou enseignant, pour accompagner ça. Donc ça, c'est un enjeu important, c'est d'agir auprès des enseignants. L'autre point, c'est d'investir massivement sur les questions d'orientation, sur le fait d'avoir un vrai programme d'accompagnement à l'orientation des filles et des garçons
qui est aujourd'hui. Mais pour ça, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait les grandes écoles d'ingénieurs qui soient les écoles justement assez techniques, ou par exemple Compiègne, là où vous êtes, Myriam Momi. Est-ce que vous allez suffisamment dans les lycées pour parler aux filles au moment où se fait l'orientation?
Tout à fait. Donc moi, je fais partie de l'association Femmes et Mathématiques et il y a des journées organisées où on réunit les lycéennes et on leur montre justement les métiers, comment elles peuvent s'orienter. Donc il y a tout à fait ça. L'Université des Technologies de Troyes va aussi dans les lycées. Hein, on va montrer ce qu'on peut faire. Et aussi, on invite les lycéennes à venir voir ce que c'est l'université et peut-être à casser les préjugés. Parce que je pense qu'en fait, on vit dans ces préjugés-là. On ne leur a pas montré qu'en fait, le travail d'ingénieur, ça va être ci et ça va être ça. Et puis, on parlait tout à l'heure du numérique. Moi, j'ai déjà une fille qui m'a dit, mais en fait, tu sais, on me dit numérique et on me dit programmation. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait programmation. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment les images arrivaient sur l'écran et ainsi de suite. Et en fait, je n'avais pas besoin de savoir énormément programmer en Python ou en C. Il fallait juste que je regarde d'autres matières. Donc, je pense aussi, il faut leur montrer. C'est important. Hein, je pense qu'elles ont envie de toucher, de voir et ainsi de suite. Donc, et puis, je pense qu'effectivement, les parents, les enseignants doivent les accompagner. Et peut-être aussi, c'est à eux de faire des efforts sur ça en disant, bah, tiens, on va aller aux journées portes ouvertes. Tiens, on va aller voir ce qu'est un ingénieur. Et puis, pourquoi pas peut-être un ingénieur, une femme, parce qu'il y en a toujours une, on en trouve quand même. Bien sûr qu'elles ne vont pas se manifester autant que les hommes. C'est sûr que parfois, elles sont un peu plus discrètes parce qu'elles en ont pris plein la figure aussi. Hein, on va le dire. Hein. Tout à l'heure, elles nous appelaient les rescapées. Donc voilà. Donc je pense que ça, c'est aussi important comme message à faire passer.
Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment une feuille de route de la part des grandes écoles d'ingénieurs, par exemple, très honnêtement?
Moi, j'en suis pas certaine. Pour avoir aussi enseigné par ailleurs dans des écoles d'ingénieurs, ce qui est marquant, c'est, si on prend le cas de certaines grandes écoles d'ingénieurs, c'est qu'il y a très peu de filles et qu'il y a une permanence, même si les choses sont en train de changer, de discours sexistes extrêmement forts dans ces écoles-là, hein, et qui sont assez acceptés entre les élèves, mais aussi par le corps professoral qui va dire oui, mais les garçons sont un peu immatures, etc. Qu'on retrouve d'ailleurs au lycée, cette excuse, entre guillemets, de l'immaturité des garçons, et qui en fait, justifie le fait que les filles elles soient un peu à côté, un peu à part, pas légitimes pour être là, voire qu'elles se disent « oulala, c'est un environnement qui est hostile ».
Est-ce qu'il faudrait réfléchir à carrément des politiques de quotas? C'est plus ou moins en place dans une école atypique comme l'école 42, me semble-t-il, une école d'informatique
Cette question des quotas, elle a le mérite de rendre visible en fait le fait que potentiellement jusqu'à présent, de façon un peu inconsciente, on favorisait les trajectoires de jeunes garçons. Si on va sur des politiques de quotas, à la rigueur, pourquoi pas, ça peut être des choix, c'est au moins des expérimentations qu'il faudrait évaluer. Mais surtout, ce qui est important, c'est de regarder le nombre de filles à l'entrée et le nombre de filles à la sortie. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que entre le début et la fin, les filles se retrouvent exclues ou vont prendre des voies parallèles ou vont prendre des options parallèles, etc. Et en fait, nous, ce qu'on dit dans ce rapport, c'est surtout, ça peut se faire dès le lycée, c'est de s'assurer que les filles qui rentrent dans ces filières-là, elles y restent. Et le problème des quotas, c'est qu'on peut se dire, c'est bien, à l'entrée, on a 50-50% de filles. Et puis, en fait, après, on s'aperçoit qu'elles se sont toutes éparpillées. Puis à la fin, elles ne sont plus là.
Évaporation,
comme par magie ou par discrimination.
Le rôle des médias. À quand un top chef des filles en sciences? On voit à quel point des émissions de ce type ont complètement renversé l'image des métiers de la cuisine, de la pâtisserie, par exemple.
Je pense que ça serait une bonne idée. je ne suis pas sûre que c'est pour demain.
C'est moins visuel, effectivement, de faire des équations en maths au tableau.
Mais je pensais à Miss Mathématiques au Sénégal. Je pense que, on a les Olympiades. Hein, en France, on pourrait aussi faire l'Olympiade pour les femmes. Je pense qu'effectivement, il va falloir diffuser. Alors, sous quelle forme, je ne sais pas s'il faut faire un top chef, mais il va falloir diffuser qu'effectivement, c'est aussi sexy qu'autre chose. Parce qu'il y a ça aussi, il y a la connotation, faire des mathématiques, faire de la physique, c'est pas peut-être sexy. Et ça, il faut peut-être le casser. Je veux dire, il n'y a pas à dire c'est plus sexy et ainsi de suite.
Qu'est-ce qui se dit dans les entreprises, notamment dans les directions des ressources humaines à l'heure actuelle, où on aborde une vraie période de pénurie? Il y avait déjà une pénurie d'informaticiens, de développeurs, de spécialistes de la data notamment. Mais là, on aborde une période avec des pénuries beaucoup plus larges sur les métiers technologiques d'ingénierie. Est-ce que les entreprises voient l'évaporation des filles comme un très mauvais signal pour elles, ou pas, ou il n'y a pas de prise de conscience? Mais il y a Momi, vous qui travaillez avec les entreprises.
Alors, il y a une certaine prise de conscience et ils se demandent comment justement on pourrait attirer les femmes, comment elles peuvent revenir.
Donc effectivement... Venir, tout simplement. Venir. Elles ne sont jamais venues.
Oui, certains sont venus. Et se demandent justement, alors on revient à cette histoire de politique et de volonté, ils se disent, mais est-ce que en fait le gouvernement pourrait pas nous aider, donc toute la publicité qu'on met justement femmes et maths ou femmes et sciences autour de venez parce qu'effectivement on en a besoin. Et une entreprise sent qu'effectivement les femmes sont en train de déserter un petit peu et ça les inquiète.
Mais par ailleurs, il me semble, sans être spécialiste de ce qui se passe en entreprise, mais si on regarde en revanche les questions d'inégalité femmes-hommes dans la société, que les entreprises, elles ont encore des marges de progression majeures. Les inégalités salariales entre femmes et hommes dans les entreprises, et y compris dans les entreprises où il y a des profils ingénieurs, elles sont massives. Elles sont de l'ordre de 20%, parfois plus importantes.
Beaucoup moins importantes à compétences égales, à postes égales, c'est beaucoup moins que ça.
Mais elles persistent. Oui. À compétences égales et à postes égales.
Travail égal, c'est beaucoup moins.
C'est beaucoup moins, mais c'est toujours là. Et donc, du coup, vous avez raison de souligner ça, c'est que quand on est à compétences égales, temps de travail égal, une formation égale, ce qui reste, c'est quoi ? Ça n'est que de la discrimination, et c'est autour de 8-10%, si je ne me trompe pas. Et donc, 8-10% de discrimination, c'est quand même important. Une entreprise qui dirait, nous, on vous assure, en tant que femme, que vous aurez l'accès au même poste, l'accès aux mêmes possibilités, et surtout, on vous garantit l'égalité salariale, et on sera vigilant aux problématiques de discrimination, aux problématiques de violence sexiste et sexuelle dans notre entreprise, bah peut-être que ça attirerait des filles.
Myriam Momi, une dernière recommandation ?
Pour les filles ?
Oui.
Oui, surtout qu'elles ne se découragent pas. Ça, c'est très important. J'aimerais surtout qu'elles disent je vais y arriver, il n'y a pas de connotation, il n'y a pas de préjugés. Les maths, la physique, la chimie, la science de l'ingénieur aussi. Voilà.
Merci à toutes les deux. Avant qu'on se quitte, je lis le message d'Aliou qui est à Cotonou au Bénin. Il nous dit que les mathématiques nécessitent de s'entraîner en Afrique et chez nous au Bénin. Les filles ont plus de travaux domestiques que les garçons qui avons plus de temps pour faire des exercices. Voilà, une vraie réalité aussi. Merci de l'avoir rappelé. Aliou, merci pour ce message de Cotonou au Bénin. Et merci à vous tous pour vos messages, vos témoignages, vos notes vocales, vos appels en direct. Merci surtout et bravo à vous, les voisines. Merci Myriam Momi, mathématicienne. Université de technologie de Troyes, membre du bureau de l'association Femmes et Mathématiques. Et merci à vous, Manon Reguet-Petit. Le rapport Les freins à l'accès des filles aux filières informatiques et numériques pour le Centre Hubertine Auclair est en ligne. Et vous pouvez tous le consulter dans quelques instants. La chronique du psychologue Ibrahima Giroud. Comment écouter les enfants lorsqu'ils se plaignent de la violence dans la famille? Ça sera juste après Dionisio Mayo.
Hola, cuacha canta, y allá manche, corta labrador, cabo honca más, cabo chaplumeña, pañal la cama, vamos a pasar hasta la banda. Cabo chaplumeña, pañal la cama, vamos a pasar hasta la banda. Jampanya nya inshala, jampo tzimado, amintita vai fazer nya smentera, ezon nya esperança e negra, amintita vai fazer nya smentera, ezon nya esperança e negra,
qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. La chronique du psychologue Ibrahima Giroud à Dakar. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Emmanuel.
Suite de notre série de chroniques consacrée aux violences dans les familles, on va aborder aujourd'hui la question de la posture d'écoute. Pourquoi c'est important d'écouter? Comment écouter aussi pour faire changer les choses, pour faire cesser la violence? Une violence que vous qualifiez souvent, Ibrahima, de double peine.
Tout à fait, Emmanuel. La double peine existe dans les cas de violence familiale où, en plus de subir une violence particulière, l'enfant n'a pas le droit de pleurer, il n'a pas le droit de se plaindre, de chercher à obtenir réparation. Et sans le savoir, c'est comme si le parent lui demandait de chercher les bonnes raisons pour lesquelles et par lesquelles il aurait mérité la violence qu'il a subie.
C'est ça. Non seulement il est violenté, mais en plus, il se sent coupable. Et s'il ne trouve pas ces bonnes raisons qui expliqueraient la violence.
Voilà, typiquement, on lui reprochera de ne pas avoir assez bien cherché, mais en réalité, l'absence d'écoute parentale, puisque c'est cela que cette attitude traduit, est une manifestation de la faiblesse psychologique du parent, de l'érosion même de son autorité, une sorte de signal de son épuisement moral.
Alors à ce propos, je voudrais vous lire le message d'une voisine qui nous a posté ceci, Ibrahima, c'est Maryse à Yaoundé, elle est maman de deux enfants. Et elle dit « Votre thème m'intéresse particulièrement car je suis très violente dans la communication avec mon fils de 7 ans, qui est pourtant un enfant adorable. Le drame, c'est qu'il reproduit mes expressions et mes méthodes sur son petit frère de 3 ans. » Et du coup, j'ai compris que cette violence, eh bien, c'est une violence que j'ai moi-même reçue. Je souffre beaucoup de ce modèle d'éducation que je transmets à mes enfants. Et je n'arrive pas à me corriger. Mon fils de 7 ans a lui-même essayé d'initier plusieurs dialogues avec moi pour me sortir de ses excès de colère, sans succès. C'est bien triste. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Maryse ?
Disons, Emmanuel, premièrement, Maryse doit savoir que la culpabilité ou les remords n'ont jamais fait de bons parents. Maryse, ne soyez pas non plus prisonnière de vos bonnes intentions. Ne chargez pas trop votre cœur du passé, car vous n'aurez pas assez de place dans le présent pour écouter et entendre. Les bonnes intentions ne suffisent plus.
La première leçon, donc les remords ne marchent pas, mais les intentions seules ne suffisent pas non plus. Alors,
chère Maryse, sachez qu'on n'est pas condamné par l'éducation que l'on a reçue. Ne perdez pas votre temps à reprocher leurs défauts à vos parents. À chaque fois que vous indexez leurs manquements, vous avez 3 droits qui se retournent vers vous pour vous accuser. Enfin, chère Maryse, agissez. Agissez, soyez créative et regardez droit devant vous. Assumez votre autorité et parlez avec vos enfants avec un discours apaisé, adapté à leur âge. Appelez-les, invitez-les à partager sans crainte leur journée, comment ça s'est passé. Faites-les raconter leur journée. Demandez-leur ce qu'ils ont aimé de leur journée. C'est comme ça que vous apprendrez à écouter. Écoutez d'abord les choses simples, comme la journée et comment elle s'est passée, et de plus en plus aller vers les choses un peu plus délicates. Vous entendrez même ce qu'ils ne veulent pas dire. Ne dites pas « je veux changer les choses ». Changez-les parce que vous en avez la possibilité.
Et pour écouter, il ne faut pas avoir peur également des silences, hein, pour écouter son enfant, raconter sa journée. La question de la semaine pour Maryse et pour tous nos auditeurs, nos auditrices qui connaissent ces situations de violence dans la famille.
Alors aujourd'hui, je vais m'adresser aux parents du monde entier, Emmanuel. Parents du monde entier, n'ayez pas peur d'écouter, ni d'essayer aujourd'hui. Pourquoi penser que vous ne pourrez rien changer ? Alors que les enfants attendent simplement que vous ouvriez vos bras pour ouvrir avec vous de nouvelles pages et écrire avec vous de meilleures histoires.
Et pour tous ceux qui voudraient poser des questions au psychologue Ibrahima Girou, je vous rappelle notre compte WhatsApp 33 7 64 45 51 41. Vous postez vos messages écrits, vos notes vocales. Ibrahima Girou vous répond dans ses chroniques. Toutes ces chroniques sont disponibles en podcast sur les plateformes de téléchargement. Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, c'est le titre. À très bientôt, Ibrahima.
Au revoir, Emmanuel.
Et merci à toute l'équipe qui prépare cette émission. Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Didier Cherouz étaient aujourd'hui à la liaison avec les auditeurs. Nos émissions, vous pouvez les réécouter en totalité, en podcast, à l'heure qui vous plaît. Et on se retrouve demain pour 7 milliards de voisins. Nous parlerons des femmes en prison. Elles représentent une infime minorité de la population carcérale, mais elles sont les oubliées des politiques de la justice, nous racontera une surveillante de prison en France. Nous verrons aussi quel est le sort des femmes en prison au Mexique et en Mauritanie.
derrière les barreaux. Dans une minute, le journal sur RFI. À demain, même heure, même endroit, les voisins, les voisines.